Le sport sur RG33. Plus que des résultats, une vraie passion.
Salut à tous, la bienvenue 19h sur la plus gironde, comme à l'accoutumée tous les lundis, 19h-20h pour le meilleur de l'actualité sportive. Alors il y a l'actualité qui prédomine, bien entendu, mais il y a aussi tous les 15 jours, vous êtes habitués à présent, eh bien, on se déplace du côté de nos sportifs, du côté de nos clubs girondins et Pessaqué de surcroît. Et ce soir, nous sommes en direct du côté de l'avenue Pierre Wayne, le 7 très exactement, si mes souvenirs sont exacts. Et c'est l'escrime qui nous reçoit. Bonsoir Camille, bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Comment allez-vous bien ?
Ça va bien.
Bon,
alors, très bien.
Alors d'un côté, on a Jérôme qui, lui, au sein du club, est...
Le président.
C'est le président. Et puis on a Camille qui...
Et la maître d'armes.
Maître d'armes. On va en parler un petit peu. Bon, la présidence, on sait à peu près où c'est que ça va nous mener, mais on va surtout parler de la structure de l'escrime qui est importante pour faire découvrir à tout le monde ce qu'il y a à Pessac du côté de l'escrime et tout ce que l'on peut découvrir sur ce sport et notamment pour le SPUC. Escrime. Petit tour avant l'actualité, mais il se croit oublié, mais non, il est juste à côté de moi, c'est Jolan. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Allez Jolan, on va partir du côté, avant de retrouver l'escrime, il y en a pour 30 secondes, les féminines du SPUC handball a fait un excellent résultat, n'oublions pas qu'elles sont en N1. On est bien d'accord.
Oui, en National 1, du coup, et elles ont battu ce week-end Bord 30-17. Un excellent résultat, donc elles conservent la tête du classement.
Voilà, deuxième, c'est Mios Biganos qui a pas grand-chose de points de différence.
Mios qui a battu Bergerac 35-25 au passage.
Exact. Alors ça, c'est le côté, la petite balle. Et on va aller du côté de la balle ovale avec le Pessac Rugby en fédéral 3. Il y avait deux matchs, ils recevaient Sainte-Foy.
La grande. Oui. Donc ils ont gagné 39-29 et il y avait le derby aussi entre Gradignan et Mérignac, victoire de Mérignac 33-29.
Ce qui nous fait malgré tout pour les Mérignacais, le club girondin le mieux placé c'est Mérignac 3e, Léognan 4e et les Pessaquais pointent à la 6e place.
Bah, et, et Gradignan qui est 8e avec 7 points.
Et Gradignan qui est 8e. On va passer à tout autre sport qui s'appelle tout simplement le roller. Et qu'on envoie un bonsoir à toute l'équipe du côté du SPUC Roller avec la deuxième journée samedi 23 octobre et c'est une victoire qui était tout simplement face à Montpellier-Manta et victoire 5-2, c'est de bon augure puisque on a voilà les résultats, on a quelqu'un tiens qui connaît le roller, on peut lui demander un petit peu hein. Le classement est-ce que Camille connaît le classement?
Alors le classement de la N2, non, pas du tout.
Non, elle ne connaît pas Camille.
C'est alors... juste que c'est un bon match. Montpellier est une bonne équipe, donc c'est 3 points à la maison
qui sont très appréciables. C'est une histoire de seconde puisque on m'a envoyé tout simplement les résultats et puis j'étais un petit peu à la traîne. Voilà qui est aujourd'hui 4e le SPUC. Voilà les matchs qui ont débuté pour la première journée. On n'a pas eu le temps de vous les annoncer, mais le SPUC s'était incliné face à Rochefort 9-7 et pour la deuxième journée. On vient d'en parler. Journée à venir, c'est cette semaine, samedi. Si vous ne savez pas quoi faire, mesdames, messieurs, vous pourrez aller voir un superbe match avec la venue de La Teste.
Nos voisins, ouais.
Voilà, les voisins de La Teste pour un match le samedi 30 octobre. Si mes souvenirs sont exacts, c'est 19h30 pour le match. début du match, donc évidemment.
Coup d'envoi.
Coup d'envoi de. Alors, si vous voulez le voir, vous venez un tout petit peu en avance et l'affaire sera dans le sac. Ça, c'était pour les trois petites informations pessacaises que je voulais mettre en avant d'attaquer tout simplement ceux qui nous reçoivent. Encore merci, président, de nous recevoir. Petite radio, petite web radio de Pessac. Voilà, et puis c'est un grand plaisir de venir visiter votre structure et de parler de votre sport qui est l'escrime. Club qui, malgré tout, j'ai vu un petit peu implanté depuis quand même quelques temps.
Hein. Eh ben oui, on est implanté depuis 1967. Ouais. Donc, ça fait un bon nombre d'années. Toujours présent au même endroit.
C'est ce que j'allais dire, ouais. Parce que souvent, quand on a une date aussi lointaine, on a tendance à changer un petit peu de site. Et ben là, non, pas du tout.
Oh bah, ils doivent s'y trouver très bien ici, hein, pour ne pas bouger hein, depuis tout ce temps. Hein.
Là, je serais peut-être, à mon avis, ils demanderaient... Oh,
on peut trouver mieux. Hein.
Monsieur le maire, s'il nous entend. non. La salle est quand même bien. Je me doute que la structure viendrait peut-être à être agrandie si possible. Évidemment, niveau de licenciés, le SPUC Escrime contient quoi comme licenciés ?
Alors, en effectif, cette année, on approche les 100, qu'on devrait peut-être dépasser quand même sur le mois d'octobre ou novembre. Là. On est à 98 ou 99 licenciés cette année.
Une centaine de licenciés avec une majorité féminine, masculine ?
Alors plutôt masculine, mais c'est assez mixte quand même.
Quand même ?
Ouais. Oui.
Les filles sont assez bien représentées dans chaque catégorie, donc ça c'est plutôt bien. Après, effectivement, il y a toujours une majorité de garçons, surtout chez les petits. Les filles, en général, quand elles viennent au club, il faut qu'il y ait des copines ou des choses comme ça. Ça marche plus comme
c'est,
ça.
C'est souvent le cas quand même dans
dans beaucoup de sports. Mmh. Alors c'est vrai que l'escrime est un peu, je dirais... C'est le sport individuel par excellence, même s'il peut avoir des compétitions par équipe.
Ouais, mais pas que.
Mais malgré tout, dans la première idée de tout le monde, c'est un sport individuel. C'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un que l'on connaît à côté, c'est pas mal. Ça aide beaucoup. Donc, majorité masculine,
oui.
On a dit. À quel âge commencez-vous à prendre les enfants?
Ah, j'ai laissé Camille répondre, qui s'occupe de l'école d'escrime, des tout-petits.
Donc, ouais, les tout-petits, alors moi, je les prends à partir de 4-5 ans. Voilà. Après, ça m'est déjà arrivé de prendre un enfant qui avait 3 ans et demi parce qu'il avait vraiment, vraiment envie et qu'il suivait. Donc, en fait, je m'adapte beaucoup aux enfants, surtout quand ils sont petits comme ça. Je préfère voir comment ça se passe et puis dire à la maman, non, faut peut-être attendre un peu.
Bien sûr.
Ou alors, tenter quand même le coup. Si vraiment l'enfant a envie, je vois pas pourquoi je lui dirais non.
C'est clair. Dans l'organigramme, je dirais, d'un entraînement chez les tout-petits comme ceci, on est basé sur de la pédagogie, du jeu. Beaucoup.
Alors en fait ça va surtout être au tout début, par exemple je leur fais faire surtout un parcours de motricité.
Bien sûr.
Parce qu'à cet âge-là ils en ont énormément besoin, donc de développer tout leur corps, leurs mouvements, tout ça, donc c'est parcours de motricité. Ensuite on fait effectivement des jeux avec les déplacements d'escrime, parfois je m'aide aussi un peu du parcours ou je rajoute des déplacements d'escrime. Ensuite on fait un petit peu de technique, mais alors c'est un grand mot avec eux, et après ils font déjà des matchs. Et ils apprennent à arbitrer,
justement,
comme les grands.
Justement, y a-t-il des compétitions aussi jeunes ?
Non.
Non,
non les premières compétitions, elles vont arriver à partir de M9, donc les moins de 9 ans.
Oui, voilà. On est quand même sur une...
Alors, il faut peut-être préciser aussi que les tout-petits à l'école d'escrime n'utilisent pas les mêmes armes que les grands.
Oui, parce que l'arme des grands est quand même
ils
assez lourde
laser.
Pour eux. Donc du coup, il y a du matériel spécifique qu'a mis en place la fédération, qui est du matériel en plastique, donc plus léger.
Bien sûr, adapté à leur morphologie.
Voilà,
bien
exactement.
Bien sûr. Dans le SPUC Escrime, il y a plusieurs catégories, je dirais, alors pas d'âge, mais catégories de tout simplement avec le fleuret, etc.
Plusieurs armes.
Plusieurs armes, exactement. Voilà. Quel en est aujourd'hui ce que vous pratiquez le plus aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une tendance ou est-ce que vous essayez malgré tout de partager tout ce qu'il est possible de partager avec tout le monde, où il y a vraiment ces spécifiques?
Non, c'est très spécifique. En fait, il faut savoir qu'à l'escrime, en général, le club, en fonction du maître d'armes, va pratiquer plus ou moins une arme. Moi, de base, je suis sabreuse, et sabreuse pure et dure. Et du coup, bah, tous les petits, ici, ils font du sabre. Ils apprennent tous l'escrime au sabre. Ensuite, la volonté d'un ancien président, donc celui qui m'a embauchée, il a toujours voulu qu'on garde les trois armes en fait, au club pour les adultes, pour qu'ils aient le choix. Et c'est vrai qu'on a toujours conservé ça. Et je trouve qu'au final, c'est très bien d'avoir effectivement ce panel des trois armes. Tous les clubs ne l'ont pas. C'est très rare, je crois d'ailleurs. T'as peut-être deux clubs sur
Bordeaux. On a les trois armes, on a même quatre armes maintenant.
Oui, c'est vrai, excuse-moi. Oui, on a quatre
armes. On a tendance à oublier le sabre laser, on
oui,
en parlera plus
c'est
tard.
Assez récent. C'est que c'est très récent. Mais effectivement, on est un des rares clubs justement à avoir toutes les armes à proposer pour les adultes. Après, pour les enfants, très sincèrement, c'est un choix vraiment du maître d'armes. Le maître d'armes avant moi faisait fleuret et sabre. Et petit à petit, a bifurqué que vers le sabre. Et moi, j'ai repris que au sabre.
Alors moi, j'avais une petite question sur les armes.
Ouais.
Je voudrais savoir la différence qu'il y a entre le fleuret, l'épée et le sabre.
Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, j'aime bien expliquer ça avec l'histoire, justement. L'épée, c'est l'arme de duel par excellence. Donc, c'est l'arme, en fait, de l'aura faisselle, tout ça. Historiquement, c'était l'arme à laquelle on se défiait. Quand il y avait un conflit ou des choses comme ça, qu'on jetait un gant à la figure, là, on se défiait à l'épée.
La bonne
vraiment
réplique,
duel,
on jette le gant.
C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, en fait, on se battait et on s'arrêtait au premier sang. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui était blessé, on s'arrêtait. Et ça, du coup, à l'épée, ça veut dire que, du coup, il n'y a pas de règle de priorité. Donc, dès qu'on a touché, il y a un point. Donc, si les deux lampes s'allument, il y a un point partout. Mmh. Et au niveau des surfaces valables, on peut toucher partout, de la tête aux pieds et qu'avec la pointe de l'arme.
Voilà. D'accord.
Donc, ça, c'est vraiment l'épée.
Ça, c'est l'épée.
Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épée était une arme très, très lourde. Donc, du coup, on a créé une arme beaucoup plus légère pour s'entraîner, en fait, à l'épée. Et cette arme, du coup, on s'est dit, bah, autant s'entraîner à toucher que les points vitaux. Parce que bon, ouais, là-bas, c'était quand même l'arme de duel. Donc, c'est une arme où on peut toucher que le tronc.
D'accord.
Qu'avec la pointe aussi.
Et pas de membres.
Non, pas les membres. C'était vraiment une arme créée pour l'entraînement. Voilà, pour l'épée, pour pouvoir être en duel après à l'épée. Et on s'entraînait à toucher que les points vitaux et qu'avec la pointe. Et par contre, il y a dans l'escrime moderne des règles de priorité au fleuret. Comme au sabre aussi. Ça, je vous en reparle un petit peu après. Le sabre, c'est l'arme de la cavalerie.
Oui.
Donc, on peut toucher tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture.
Bien sûr.
Sauf les jambes, parce qu'à l'époque, il y avait le cheval. Et on ne fait pas de la pointe, parce que sur le cheval, ce n'était pas très facile.
C'était un peu plus compliqué.
Ouais. Donc, du coup, on faisait de toute la lame. Et donc, dans ces deux armes-là, le sabre et le fleuret, en fait, il y a des...
conventions.
Voilà, des règles de priorité, de conventions. Donc, ce n'est pas parce qu'on a touché qu'on a le point. Il faut avoir raison dans l'action. En général, pour faire bref, c'est celui qui avance, celui qui attaque, qui a souvent le point. Après, il y a des spécificités, je résume pour que tout le monde comprenne.
Oui, non, mais c'est totalement clair, parce qu'effectivement, il y a plusieurs... alors, les règles sont celles du toucher.
Voilà, dans chaque, toucher sans se faire toucher, c'est le but
voilà.
De l'escrime.
Les moments de combat sont les mêmes en termes de temps. Où il y a une différence, par exemple, entre le fleuret, l'épée. Il y a un combat qui est plus long, moins long.
Alors, en fait, il y a des énormes différences en fonction des armes. Et moi, j'aime bien, pareil, comparer en fait, les armes aux distances d'athlée. Typiquement, l'épée, ça va être l'arme, vraiment, c'est du 800 mètres. C'est plutôt long, c'est assez fatigant, mais il y a quand même de l'explosivité. Pour donner un exemple, un match d'épée en 15 points, c'est 3 manches de 3 minutes. Et parfois, ils n'arrivent pas au bout.
Oui.
Voilà. Le fleuret, on est plus sur du 400. C'est-à-dire que le combat va être un peu plus rapide. Par contre, pareil, ils ont 3 manches de 3 minutes pour faire un match en 15. Le sabre, ça équivaut aux 100 mètres. C'est-à-dire que nous, on a même... enfin, en général, un match en 15 points, ça se finit en moins d'une minute. Donc d'accord. Du coup, on est ultra rapide par rapport aux autres. Ouais. Et on nous a mis une pause à 8, en fait, pour faire un petit peu comme touches, les autres armes. Voilà, à 8 points, pardon. Pour que on s'harmonie un petit peu, mais on n'a pas besoin des 3 manches de 3 minutes. Voilà.
Ok, ok, ok.
Ils sont pressés. Ça va très vite, ça. Vous avez peut-être vu au JO là, ouais, cet été. Là.
Oui,
le sable,
oui,
ça va
très vite.
Ouais.
Mais ça va vite, oui, tout à fait. Mais c'est la vitesse d'exécution qui va mettre en avant la personne et qui va permettre de toucher plus rapidement.
C'est ce que disait Camille tout à l'heure, oui, c'est l'initiative de l'attaque. Hein. Quand on attaque, on a le plus de chances de mettre le point, donc celui qui part le premier.
Je suppose qu'il doit techniquement, il doit y avoir évidemment des exercices qui sont destinés à acquérir une rapidité. Certainement.
Ah mais tout à fait. C'est-à-dire que à partir du moment où on commence à monter dans la compétition, c'est sûr que on va faire surtout des changements de rythme. En fait, c'est ce qui va nous aider beaucoup à surprendre un adversaire. Ensuite, on va commencer un petit peu à muscler les jambes, à faire des départs de sprint, des choses comme ça, pour que ils aient l'explosivité nécessaire qu'il faut pour pouvoir mettre facilement leurs points. Ouais.
Bien sûr.
Alors, en parlant de compétition, est-ce que vous en avez souvent dans ce club, ici ?
Alors oui, chez les petits, on en a pas mal. Après, jusqu'à l'année dernière, j'en avais un en équipe de France, junior, Gabin Bern. Alors, il a choisi de faire des études. Donc on ne peut pas lui reprocher, voilà. Donc à partir de cette année, il est parti en Sciences Po à Menton.
Quand même.
Donc du coup,
c'est essentiel.
Et manque de bol vers Menton, il n'y a pas de club de sabre.
Évidemment.
C'est dommage.
Voilà. Évidemment, évidemment.
Donc un peu compliqué pour lui de continuer l'escrime malheureusement, mais oui, il avait été sélectionné pour des championnats d'Europe.
Il avait réussi.
Alors malheureusement non, je crois que son meilleur résultat du coup, c'est tableau de 32. Donc ça veut dire qu'il a fini en fait il a fini entre 17e et 32e de la compétition.
Ouais, voilà. cela dit, allez,
c'est pas mal quand même, c'est un bon résultat.
On va dire au bas mot à peu près le 20e meilleur européen.
Voilà,
oui, c'est des très bons résultats en France.
C'est pas mal,
il est capable de faire mieux.
Après, le problème, c'est que quand il y a des études comme ça, j'en ai eu beaucoup l'occasion, moi. Dans ma jeunesse, c'est difficile de revenir après quelques années d'études et pour repartir à nouveau parce qu'en général, c'est une continuité. Tu vas pas me contredire, Camille, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on est dans une dynamique de compétition et qu'on engrange les France, les Europe, etc., cette dynamique fait qu'on est optimum. Et le problème, c'est que quand il y a une cassure avec des études ou quoi que ce soit, ou grosse blessure, malheureusement,
tout à fait,
c'est compliqué, c'est très compliqué.
C'est pas
pour,
toujours évident, et même, je rajouterais même que là, avec l'interruption qu'on a eue avec la Covid, ça a été. Très compliqué pour les jeunes.
À propos de ceci, président, quelle année est-il je reprends. quelle est-il de cette pandémie avec le club? Est-ce qu'il y a eu totale fermeture? Alors, évidemment, pendant un temps, oui, comme tout le monde.
Ah, alors, le premier confinement, on avait fermé naturellement.
Voilà, c'était le blackout.
En 2020, là, on a printemps 2020.
Ouais.
L'année dernière, sur la saison 2020-2021, on a, au fur et à mesure des évolutions des décisions sur les contraintes qu'on avait, sur les fermetures, ouvertures, etc.,
ouais.
On a adapté les horaires au départ en fonction des couvre-feux, parce qu'au début, on avait des couvre-feux. Donc
c'est ça.
On a adapté, Camille a fait un gros boulot pour adapter les horaires, pour essayer d'avoir le maximum d'enfants, de donner les cours. Après, on a eu fermeture de salle. Donc fermeture de salle, donc on pouvait plus donner de cours à personne dans la salle, mais on pouvait en faire en extérieur. Alors l'escrime, on peut pas en faire partout en extérieur.
C'est un peu compliqué.
Alors on a réussi à avoir avec le Décathlon de Mérignac à l'extérieur, ils ont une halle.
Oui, exact.
Voilà. Et
exact,
Camille, avait réussi à avoir la halle là-bas. Donc le mercredi après-midi, elle pouvait aller donner les cours. Donc on a continué.
C'est sur le côté juste à côté du paddle.
Ouais, où il y a le golf et tout ça, là, ouais, après. Donc, on a réussi, on a pu avoir quand même à... Alors, on n'a pas satisfait 100% de nos adhérents, mais une bonne partie des enfants pouvaient y aller.
C'est déjà bien.
Bon, les adultes, ça a été fermé pour l'année dernière, hein, complètement, parce que les adultes, on n'a pas pu rouvrir. Et on a continué, je suis désolé de revenir avec ça Camille, mais on a continué quand même le sabre laser, parce qu'on a pu le faire en extérieur ça.
Ouais. On a parlé de tout ce qui est armes. Il y a les armes, mais il n'y a pas que, parce que c'est un sport qui demande de l'équipement. Cet équipement, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible, lorsque moi, Christophe, j'ai envie de venir m'essayer à l'escrime, et que je suppose que c'est quand même l'intégralité de l'équipement n'est pas donnée. Est-ce que vous vous prêtez ? Est-ce que tout ceci se met en place avec un prêt d'armes, de tenues spécifiques ?
Oui, on a du matériel qu'on prête. Les tenues, on propose même la location à l'année, parce que c'est quand même, c'est effectivement, bien. Comme tu le disais, c'est un investissement assez coûteux.
C'est ça.
Surtout quand les enfants grandissent d'année en année. Donc comme ça, ça permet d'avoir on a de la location, donc on a tout le matériel, et après, on prête également les armes et les masques.
Voilà. Ouais, c'est bien. Mmh. Une tenue, juste, c'est pour donner une idée, me donner une idée, puis une idée à ceux qui nous écoutent. Une tenue complète avec l'arme peut aller jusqu'à... Alors, je ne parle pas évidemment de la tenue top de top que les
pour aller au JO.
Ouais, voilà. Mais une tenue...
ouais, le pack pour refaire de l'escrime, quoi. Oh,
ouais, tout à fait. On est sur quoi ? Sur...
Ça va dépendre de l'arme.
Ouais, c'est ça.
Alors, si on reste sur le sabre...
Après, la tenue complète, c'est-à-dire, il y a trois, j'appelle ça le costume, trois pièces en fait. On a le pantalon, la sous-cuirasse, c'est une petite protection
qu'on voit pas,
sous la veste,
oui.
Voilà, et la veste.
D'accord.
Ça, c'est la tenue de base. Ah. Ça, je pense, une tenue de base classique, je dirais bien dans les 180.
Ouais, c'est ce que j'ai dit, entre 150 et 200, selon les marques, on peut être par là.
Selon les marques.
Ça reste quand même assez correct.
Ouais, mais à ça, voilà. Comme les armes sont c'est des armes électrifiées, hein, quand même.
Ouais.
Donc après,
il faut rajouter la veste électrique de sabre. La veste électrique de sabre, alors ça, c'est pareil. Hein, de toute façon, elles restent au club, elles sont prêtées. Mais en moyenne, c'est 150€ la veste.
Mmh.
Donc là, on passe directement à 300. Et après, un sabre. Un sabre monté, dans mes souvenirs, je crois que c'est 110, un peu moins peut-être.
Ouais, bon, sachant que le sabre on le change pas, c'est pas du consommable, c'est rare de casser la lame quand même.
Ouais,
ça arrive, mais.
Ça se casse, ouais. Mais voilà. Après, c'est ça qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a, on va dire, la base de l'arme, il y a juste la lame à changer si la lame se casse.
Tout à fait, voilà. Tout à fait. C'est bien.
Après, pour l'épée, bon, la tenue de base c'est pareil, par contre, l'arme en elle-même coûte et beaucoup plus cher. Je sais pas combien
Alors c'est pareil, hein, ça va dépendre de la gamme. Il y a plusieurs gammes. Hein. On a les épées de club, les épées de compétition.
Bien sûr.
Ça va démarrer de 80 à 100€ à peu près, les premiers prix. Et puis on monte à... On peut s'approcher des 200, quoi.
D'accord.
160, 180. D'accord. Et effectivement, dedans, on a un peu plus d'électronique. Enfin, pas d'électronique, mais il y a l'électricité. Il y a, y a le bouton poussoir au bout pour pouvoir allumer.
Différent.
Alors que le sabre, on est au contact. On n'a pas cette technologie dedans.
D'accord. Ouais. Oui, donc ça me paraît, je voyais ça un tout petit peu plus cher dans mon esprit, et effectivement, ça reste correct. Voilà. Après, l'avantage que ça a, c'est que voilà, je suppose que vous n'êtes pas les seuls clubs d'escrime à faire ceci, c'est-à-dire à louer les tenues, parce que effectivement, c'est plus facile.
Non, puis l'avantage, c'est qu'on a des tenues qui sont extrêmement résistantes, comme les masques, enfin tout. Donc, c'est pas du consommable. C'est-à-dire qu'un adulte, quelqu'un qui grandit plus, qui l'achète, il le garde, mais des années. C'est plus de 10 ans, 15 ans, ça peut se garder.
Effectivement.
Donc l'investissement, au début, ça fait un coup, mais en fait, quand on le ramène à l'année, bon, c'est correct.
On a parlé de fleurets, de sabres, d'épées. Et puis là, on va. Moi, j'ai reçu un appel hier de monsieur Dark Vador. Et il m'a dit, écoute.
Ah ben moi aussi, j'ai reçu.
Écoute,
dis donc.
Il comprend mal hein, quand il parle.
Si tu vas à l'escrime, parle un petit peu de mon sabre laser. C'est pas des boutades. C'est pas une boutade. Oui, on est aujourd'hui, en 2021, avec de l'entraînement et des compétitions de sabre laser. On est d'accord ?
On est d'accord. Alors, la compétition, ça démarre.
Toute raison gardée, hein.
Ouais, entendu, ça commence, hein. Et le sabre laser, oui, c'est une arme qui a été reconnue par la Fédération française d'escrime en 2018. Donc, c'est vraiment récent. Donc la pratique en France, il y a plus d'une centaine de clubs maintenant. Je crois qu'on est peut-être il y a plus de 1000-1500 de personnes qui pratiquent au sein de la Fédé.
Bientôt aux Jeux Olympiques alors.
il faut beaucoup plus, mais justement,
c'est pas le but. C'est pas le but d'aller au JO.
Non, c'est pas. Voilà,
c'est pas mal.
Effectivement, ouais, c'est une arme qui plaît. C'est un autre public. C'est pas le public de l'escrime qui vient sur le sabre laser, où c'est très rare. C'est vraiment d'autres personnes qui viennent, qui s'intéressent à soit l'univers de, souvent ça vient de l'univers des films de Lucas, mais
bien sûr,
ou des fois qui ont fait pratiquer des arts martiaux et ça ressemble un peu aux arts martiaux.
Oui, puis je suppose que la pratique est telle que même si ça peut paraître rigolo de dire ah, il fait du sabre laser, c'est un sport à part entière parce que entraînement qui est spécifique, je suppose, et puis je pense que la dépense doit être pas mal quand même malgré tout, hein.
Alors la dépense est pas mal, et puis dans le sabre laser on a plusieurs disciplines également. Ouais
d'accord,
c'est à dire qu'on a, je disais que ça ressemble aux arts martiaux, on a effectivement une partie qui est on réalise des katas.
Mmh.
Voilà, il y a différentes formes d'enseignement du sabre laser, et chaque forme correspond à un kata qu'on doit apprendre, qu'on doit enseigner aux élèves. On a les katas, après on a des chorégraphies aussi qu'on peut faire, si on veut faire des représentations, des spectacles. On a également des combats chorégraphiés, où là on va faire des chorégraphies mais en improvisation.
D'accord.
Donc sans protection, sans rien.
Inspiré par la saga Star Wars.
Oui, on est toujours inspiré, mais pour s'amuser, quoi. On y prend vite plaisir, on se prend vite au jeu.
Ah, mais moi je m'imagine. Enfin, moi je suis un fan inconditionnel de la série Star Wars, mais j'imagine reprendre, bout à bout, ce que peut être un combat dans le film avec les sabres laser. À un moment donné, c'est pas que, mais arrivé au bout, c'est pas mal, je trouve. Hein.
Ouais, ça rend bien. Ouais. Et donc, les dernières disciplines qu'on a dans le sabre laser, ce sont les combats. Où là, c'est. Alors, on va pas dire que ça ressemble à l'escrime, mais on va utiliser du. Alors, déjà, tout à l'heure, on parle de l'escrime, on est sur des pistes, c'est linéaire. Hein. On avance, on recule. Hein. Sabre laser, on va être dans une arène. Bah, comme la lutte, hein, qu'on parlait tout à l'heure. Avant l'émission, mais on va être dans une arène. C'est une arène de 8 mètres, donc c'est quelque chose d'assez grand.
Ah oui.
Ouais, ouais.
Ah ouais.
8 mètres. On va se protéger. Alors on va mettre des masques d'escrime pour protéger le visage, la tête. On met un plastron de hockeyeur également pour protéger les côtes, les épaules, coudières et genouillères de roller. Après, ou mieux si on a. Et puis après des gants assez épais parce que le contact du sabre, de la lame peut taper fort et faire mal. Et après, comme l'expliquait Camille tout à l'heure pour le sabre et le fleuret, on retrouve aussi des conventions avec des priorités à l'attaque, des attaques, des parades, des ripostes, des arbitres. Voilà. Et là, c'est des combats qui durent 3 minutes, qui sont très physiques, puisqu'on peut bouger sur toute l'arène, ça tourne dans tous les sens. Voilà. Puis il y a des règles, je n'ai pas des détails, mais des règles pour rendre le truc un petit peu plus spectaculaire et que ça aille pas trop vite.
Ouais,
pour ralentir le combat. Ouais.
Je me doute. Ah ouais. Mais tu as parlé, Jérôme, tout à l'heure de l'acceptation vis-à-vis de la Fédération française d'escrime, justement d'intégrer le sabre laser. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est au niveau mondial ? Est-ce qu'il y a une même démarche dans plusieurs pays de ce style-là, ou ça émerge vraiment petit à petit
Alors, ça avait démarré aux États-Unis. J'avais vu commencer à avoir quelques académies de sabre laser, des choses comme ça. C'est vraiment en France que ça s'est structuré, qu'il y a une fédération qui l'a adopté.
Ah ouais.
Ouais. Et après, je sais qu'après, nos amis belges également ont commencé à ouvrir des sections de sabre laser.
Ça devrait faire son
bout
de chemin.
Je sais que le référent national de sabre laser, celui qui anime en fait la discipline et qui a créé les katas, etc., est en contact régulier avec les États-Unis, avec un référent là-bas. Donc, c'est en train de se.
Prendre forme. Quoi.
Ça prend forme, ça s'homogénéise, les règles, voilà.
Oui.
Voilà, il y en a qui avaient des pistes carrées, l'autre c'est des rondes, mais on s'est en train de. Au fur et à mesure.
Ça s'harmonise progressivement, et peut-être qu'un jour, au niveau mondial, il y aura quelque chose d'unique pour que tous les pays jouent la même carte, je dirais. Peut-être. Hein.
Mais c'est une discipline, c'est récent, hein, ça a 3
ouais,
ans, donc
c'est
naissance. Voilà.
Ouais, ouais. Et puis bon, mais encore une fois, cocorico, parce que on voit que c'est les Français qui, eux, sont. plus friand.
Voilà.
On va dire
c'est
ça.
La Fédération Française d'Escrime qui l'a pris. Ouais. Ouais.
C'est ça, tout à fait. 19h30, vous écoutez Radio Génération 33. La bienvenue à vous tous. On va faire juste une pointe de musique, histoire de souffler un petit peu. On vous souhaite une bien belle soirée, vous qui écoutez RG33. On est en direct, je vous rappelle, de la salle d'escrime du SPUC Pessac, voilà, et on essaye de découvrir ou redécouvrir certaines choses. On va continuer à parler de ce merveilleux sport dans un instant. Pour l'instant, Monsieur M. Pokora, tiens, allez sur les platines de Radio Génération 33 en vous souhaitant une belle soirée à vous tous.
Maman chante en solo, maman danse la valse toute seule. Ses rêves d'enfant à l'eau, personne ne rêve d'être seul. Elle a l'amour en prison, elle n'a pas le temps pour le printemps. Elle garde son bonheur en détention, mes sourires font les siens en attendant. Papa, si tu savais comme elle manque de souffle. Alors le monde, si vous saviez, si vous saviez. Petit à petit, maman fait son lit. Papa est parti se refaire une vie, pas trop loin d'ici. Petit à petit, maman te l'a dit. Tu feras ta vie, tu feras mieux que lui. Le tango, le dos cassé. Et la foule vient de monter le niveau. Souffrir, oui, mais un peu de dignité. Il a le cœur en prison, il n'a pas le temps pour le printemps. Comme les promesses sont trahison, autant acheter du rêve aux enfants. Maman, si tu savais comme il manque de souffle. Allô le monde, si vous pouviez. Fait son lit, maman est partie se refaire une vie, pas trop loin d'ici. Petit à petit, papa te l'a dit, tu feras ta vie, tu feras mieux qu'elle.
Chante en solo, papa chante en solo. Et moi je leur fais les cœurs un week-end sur deux. J'ai changé de rythme, de vie, de tempo. Je cherche mes pas entre sa valse et son tango. On est passé du printemps aux intempéries. J'ai essayé de comprendre, on m'a dit c'est la vie. Du mal à l'accepter, donc je passe toutes mes nuits à jouer au puzzle avec les photos de famille. Yeah. J'ai le sourire en détention. Il n'y a que leur réconciliation pour payer la caution. Leur problème d'adulte, je te jure, est une sale infection. Une épidémie que connaît ma cour de récréation. Non, ne me demande pas à choisir. Je les aime d'un amour indivisible. Qu'ils se fassent la guerre ou pas, je sais que ces deux soldats ont mon bonheur pour cible. Mais
papa, si tu savais comme je manque de souffle. Alors le monde, si vous saviez, si vous saviez. Oh.
Maman, si tu savais de son manque je souffre. Les grands du monde, si vous pouviez m'aider.
Petit
m'aider.
À petit, maman fait son lit. Papa est parti se refaire une vie, pas trop loin d'ici. Petit à petit, maman te l'a dit, tu feras ta vie, tu feras mieux que lui. Oh oh, petit à petit, papa fait son lit. Maman est partie se refaire une vie, pas trop loin d'ici. Petit à petit, papa te l'a dit, tu feras
ta vie. Oh, take it slow and wait out her. Held my breath, 'cause I believe that you'll find me real, 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 real love. This is real, 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 real love.
Toute la semaine, RG33, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous accompagner. Musique, chronique, info et direct, RG33, c'est votre radio web. Et la nuit, ce sont toutes vos rediffs de chaque animateur. Même la nuit, on est tous avec vous. RG33, la radio pour tous. Un seul accès, www.rg33.fr, la plus gironde de vos radios web.
Le sport girondin sur radio Génération 33.
Génération 33. Génération 33.
Le sport girondin, mesdames, messieurs, en direct ce soir, 19h37. Pour vous prouver qu'on est bien en direct. Et on est du côté de l'escrime. On est avec le président en personne, Jérôme, et puis Camille, maître d'armes. On a évoqué pas mal de sujets et on va poursuivre cette dernière demi-heure pour décrire ce que fait l'association, ce que fait le club. On a parlé des sabres, des fleurets, on a parlé d'épées, on a parlé de sabres laser. Oui, oui, on n'avait pas maître Jedi avec nous, mais ça fait rien, on a pu en parler un petit peu.
Moi j'avais une petite dernière question sur le sabre
Pourquoi
laser.
Pourquoi dernière?
Oui, pas dernière, mais avant que tu passes à autre chose.
Je sens que tu vas venir essayer un samedi matin avec nous là.
Non, tout à l'heure tu as parlé de kata et il y a plusieurs types de kata, non? Je voudrais savoir, t'en parles un peu plus.
Ouais, alors il y a plusieurs sorts, c'est-à-dire il y a 7 formes au sabre laser. Il y a un kata pour chaque forme. Donc chaque forme, en fait, c'est le niveau de l'apprenti, hein, lorsqu'il apprend. Il y a des katas. Le premier kata, on tient essentiellement le sabre à deux mains. Parce qu'un sabre laser, on peut le tenir à deux mains. Mmh, on peut le tenir à une main, la main gauche, la main droite. On a le droit de changer quand on fait un combat. Tiens, on a le droit de changer aussi de main.
À deux mains, ça doit pas être simple ou pratique, je sais pas. C'est quoi le mieux en fait?
Alors, pour les katas, pour les chorégraphies à deux mains, c'est sympa. Pour le combat, alors c'est peut-être parce que moi je suis escrimeur, je trouve qu'à une main c'est mieux, ouais. C'est plus pratique. Mais après, voilà, chaque forme, des formes se rapprochent de l'escrime, d'autres du kendo, d'autres un peu de canne de combat. Enfin, on est vraiment.
Oui, parce que la prise, à mon avis, la prise à deux mains. Lui, il se physiquement, on est dans une optique au niveau du tronc qui se déplace différemment. On est bien d'accord.
On est d'accord. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir l'arme à deux mains, on va être plutôt de face à son adversaire. Alors qu'en escrime avec une main, on est de profil.
Ouais, voilà. Exact. Ouais,
on est le bassin n'est pas orienté de la même façon. Voilà. Mais faut venir essayer un samedi matin.
Oui. Pourquoi pas.
Petit aparté en ce qui concerne, parce que c'est vrai que j'aime bien y venir dans tous les sports où la radio se déplace. Au niveau handicap, est-ce que aujourd'hui l'escrime prétend, et notamment Spuc Escrime, prétend à accueillir des gens handicapés?
Oui, tout à fait. On fait de l'escrime fauteuil. On a dans la salle, là, on a vu tout à l'heure, on a des fauteuils qui sont là,
tout à fait,
pour accueillir nos adhérents. L'escrime fauteuil, d'ailleurs, la France a été représentée au dernier JO. On a eu des médailles également.
Et bien représentée, ouais. Parce que on l'avait dit la dernière fois du côté du roller. Et c'est vrai qu'on avait été, enfin moi personnellement, j'avais été très agréablement surpris de l'évolution qu'a pris les Paralympiques. Il y a eu une montée en flèche extraordinaire et c'est tant mieux. J'espère que c'est pas terminé, que ça va continuer, en espérant que ça soit, je dirais, le petit quelque chose qui va faire évoluer encore plus, puisque les prochains, ça sera chez nous en 2024. Et donc, les prochains Paralympiques, ça sera du côté de la France. Et j'espère que ça va être, je dirais, le départ pour les associations de tout genre qui peut accueillir des handicapés qui puissent prétendre justement à être dans cette dynamique. C'est génial. Donc, aujourd'hui, l'escrime à Pessac,
On est labellisé pour faire la pratique de l'escrime en e-sport. On est adhérent à la Fédération française en e-sport. On pratique. En e-sport, ils sont plutôt sur les trois armes, hein, souvent.
Actuellement, on en a deux, des sabreurs principalement. Mmh. On a eu aussi des épéistes. Après, il faut savoir que il y a le Bordeaux CAM qui a ouvert une grosse section Pôle France Andy. Et donc du coup, j'ai eu beaucoup d'Andy qui sont partis là-bas.
D'accord.
Ce qui est logique aussi, mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il nous en reste plus beaucoup, mais ils sont toujours là. Et on essaye effectivement d'en avoir d'autres. On a un autre membre du bureau, un bénévole, qui vient tous les mardis soirs pour s'en occuper justement. Parce que ça m'aide pas mal, parce que c'est vrai que gérer les andis et en même temps les valides sur un même cours, c'est pas toujours évident. C'est bien, comme ça ils ont vraiment leur attention à eux.
Et on mixe, hein, c'est-à-dire que les valides font de l'andisport. On les installe dans le fauteuil et ils pratiquent avec l'andisport.
Ça doit leur faire drôle quand même, non?
Ça développe autre chose, hein?
Alors, ça leur fait drôle, effectivement.
C'est ce que j'allais dire, ça développe autre chose.
Très bien pour les valides, en fait, parce que du coup, ça les force à utiliser vraiment leurs bras et pas les jambes.
Voilà.
Donc, je parle notamment pour les sabreurs où on a tendance à courir sur la piste, comme tu dis.
Ça fait travailler la coordination.
Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, dès que j'ai un enfant qui est blessé, typiquement, c'est une bonne solution de repli. Quand il y a eu des entorses, des jambes cassées,
largement,
des trucs comme ça.
Ouais. Largement, c'est vrai.
Je leur dis, mais si, il peut. Alors,
c'est pas une excuse,
pas
on peut
dans
faire.
Un premier temps, voilà, mais il peut toujours venir au bout de deux semaines de blessure venir faire de l'escrime en fauteuil.
Voilà. Jérôme, tu parlais de la labellisation. Dans cette labellisation, il y a vraiment quelque chose qui est spécifique. Alors, je suppose que le lieu doit être dans la labellisation.
Ah bah oui, évidemment, la salle doit être adaptée à l'accessibilité handicapée.
Alors, je tiens à rassurer tout ce qui nous écoute pour y être passé. Effectivement, quelqu'un en fauteuil roulant peut venir à la salle sans problème.
On peut rentrer dans la salle, on a une rampe pour accéder aux pistes, on a des sanitaires handicapés, on n'a aucun problème là-dessus.
Qui fait partie de cette fameuse donc labellisation.
Exactement.
Labellisation côté handicap, mais labellisation aussi de l'autre côté. Le club est labellisé, sans parler du côté handicapé, mais est-ce que le club est labellisé au niveau de la Fédération française d'escrime?
Alors on est naturellement affilié à la Fédération française d'escrime, mais après est-ce qu'on a d'autres labels, Camille? Tu me poses une colle là. Faudrait que j'aille voir au panneau à l'entrée parce que c'est indiqué tous nos labels.
Oui, parce que c'est vrai qu'en temps normal, les fédés labellisent les clubs qui.
On en a, mais alors après j'ai
parce
plus
que ça leur
tête,
permet en fait ça leur permet de faire plusieurs types de labellisation qui permet de faire évoluer le club. Dans la structure, dans plein de choses. Et voilà, c'était juste pour savoir.
Il y en a. Je suis en train d'essayer de visualiser le panneau dans ma tête, mais.
Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Ouais. On va revenir côté handicap. Compétition, handicap? Oui?
Alors, oui.
En Aquitaine?
Alors, il y en a, Camille, des compétitions, il y en a, naturellement.
Ah oui,
hein.
Il y en a en Aquitaine. Par contre, nous, effectivement, à Pessac, je n'ai pas d'escrimeurs qui y vont.
Oui,
mais effectivement, il y en a qui sont organisés. Oui, voilà.
Ça viendra.
On espère que ça viendra, tout à fait, oui.
Oui, je suppose qu'il doit y avoir un championnat Nouvelle-Aquitaine, je suppose.
Tout à fait. Il y a le championnat de Gironde aussi, souvent.
J'allais y venir, justement. Est-ce que c'est comme dans tous les autres sports? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'alternative. Championnat de Gironde, championnat Nouvelle-Aquitaine, oui, il y a toujours
Alors,
cette
en fait,
même alternative. Oui.
Oui, oui, à l'escrime, en fait, par exemple, pour les premières années ou deuxième année d'escrime, ce qui est très bien, c'est que le comité départemental de Gironde organise des petites compétitions aux Crêpes de Talence. Donc, en général, c'est de l'apprentissage à la compétition. Donc, c'est super pour les tout-petits. Donc, on les met d'abord là-dedans et à la fin, effectivement, ils font le championnat de Gironde. Ensuite, quand ils sont plus grands, effectivement, on les lance déjà dans un cursus un peu plus élevé. Et donc, ça va être tout ce qui est au niveau de la ligue. Alors maintenant, c'est plus ligue, mais c'est région.
Ils aiment bien changer les appellations.
Voilà. C'est Ligue, on comprend tous.
Donc du coup, à partir, on va dire, de jusqu'à minime, ils peuvent quand même... Alors nous, comme il n'y a pas beaucoup de clubs au Sabre, il y a souvent une compète à Pau, une compète à Bordeaux, une compète au Bousca ou à Pessac, ça dépend des années, et le championnat de Nouvelle-Aquitaine. À partir de minime, en fait, s'ils veulent faire des compétitions de haut niveau, on rentre dans les sélections pour les championnats de France. Et là, c'est un petit brassage qu'ils font en fait au niveau de la Fédé. Donc d'abord, il faut participer à, le petit circuit Ligue qui nous qualifie pour l'Interligue, qui nous qualifie après pour une première, pseudo... alors c'est
région,
moitié de France en fait.
Ouais, voilà. D'accord, c'est plus que région.
C'est ça. C'est moitié de France et après les championnats de France.
D'accord. Donc, voilà. Oui, sacré parcours, cela dit,
ça fait
pour
un
arriver
bon parcours,
aux France quand même.
Exactement.
Malgré tout. Oui, ça fait.
Après,
quand même...
en moyenne, dès qu'on monte dans les catégories. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il y en a moins, mais en M17, il y a à peu près 5 circuits nationaux plus les France. En M20, il y en a 4 et plus les France. Et en senior, avant, il y en avait 6 et maintenant, il n'y en a plus que 3. Voilà. Et les championnats de France.
Ok. Oui, ça fait quand même...
Ça fait une bonne compète sur l'année, ouais.
C'est pas mal.
Surtout que, bon, quand c'est des déplacements... France, bon, c'est Roubaix, c'est Grenoble, Charleville-Mézières.
Il y a de quoi se faire plaisir. En allant pas loin, on peut se faire plaisir. Déjà, il y a des compétitions non officielles, des challenges, des rencontres.
J'ai eu connu, oui. Ouais. En parlant justement, restons, puisque la radio est girondine, restons dans le domaine du département, de la Gironde. Est-ce que tous les clubs font sa petite compétition, organisent leur petite compétition justement pour ou pas ?
Alors non,
c'est petit ou pas ?
Sincèrement, alors après moi je parle vraiment pour le sabre, pour le fleuret et l'épée, je pense pas, mais je pense sincèrement que ça doit marcher pareil dans toutes les armes. En général, c'est un club qui organise une compète chaque année et c'est très rare, en tout cas au niveau de la région, que ça change de club.
Ça vient de quoi de ne pas organiser pas attrayant, je sais pas, j'essaye de trouver le pourquoi
c'est
du comment.
C'est une contrainte, organiser une
compétition. L'organisation, ouais. Alors là, on va organiser au mois d'avril à Pessac, à la salle Belgrave, les championnats de ligue.
Belle
sabre.
Belle salle là.
Ouais, très belle salle. On avait fait les France là en 2019 déjà. Championnat de ligue Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour pouvoir organiser déjà, il faut avoir la salle.
Oui, alors ça,
déjà,
ça,
dans la salle d'escrime, on peut pas. Pas de salle, pas de possible d'organisation.
On est d'accord.
Voilà. Et une fois qu'on a la salle, après, il y a l'organisation à faire. Ça prend du temps. Faut trouver, faut les bénévoles, faut
les arbitres.
Les arbitres, le loger, ceux comme disait Camille, qui peuvent se déplacer de loin. Enfin, c'est une très grosse organisation. Voilà. Donc nous, on l'organise. On est ravis d'organiser ça cette année au mois d'avril là.
Ouais, c'est chouette. Ouais. C'est...
Ça fait une bonne dynamique de club, ouais.
C'est sympa.
Ça.
Tout à fait. Est-ce qu'il y a des rassemblements justement interclubs auxquels tout à l'heure Camille, tu as parlé du Krebs, qui est quand même, l'endroit auquel il y a beaucoup de sports qui viennent justement faire des rassemblements. Est-ce que l'escrime, au point de vue Gironde, fait des rassemblements interclubs pour faire, un entraînement commun ou pas est-ce que ça se fait
Ça peut se faire, effectivement. Moi, je sais que je l'ai déjà organisé avec le maître d'armes de Pau. Après, faut savoir que ça dépend de l'entente en fait entre les maîtres d'armes.
Tout simplement.
Voilà.
Tout
ça simplement. C'est vraiment ça. Après, il n'y a rien vraiment d'écrit sur le papier, on va dire, au niveau du comité départemental, à part les petites compétitions qu'ils organisent. Après, si moi, je veux faire, par exemple, un entraînement avec Mérignac ou le Bousca, j'ai juste à appeler mes collègues et je pense que ça ne pose pas de problème. On l'a déjà fait dans
le
passé.
Oui, parce qu'après, vous avez déjà la structure. Il suffit d'aller ou chez l'un ou chez l'autre. On est tranquille, quoi.
Exactement,
ouais. Très bien.
Mais c'est vrai que ça va plus dépendre de l'entente entre les maîtres d'armes, si on se fait confiance ou pas, parce que bon... Ça, on va dire que malheureusement, dans le passé, on a vu des maîtres d'armes qui essayaient de prendre les gens ailleurs.
Recruter.
Je pense comme dans tous les sports.
Mercato.
Mercato Escrime.
Voilà, c'est ça.
Ah, j'ai connu ça et c'est terrible.
Non, mais après, il y a des rencontres. Sinon, si on prend plutôt que catégorie adulte, loisirs adultes, là, il y a des rencontres.
Ouais, des challenges, en fait,
voilà,
qui sont assez sympas.
Il y a Mérignac qu'on organise, le Bousca. Enfin, il y a pas mal de clubs dans le coin. Là, on n'est pas sur de la compétition pour gagner, pour monter au championnat de France ou partir au JO.
Bien sûr.
On passe la journée, on se fait plaisir.
Il y a un petit buffet
au barbecue. Mais voilà, on est là toute la journée. Ça peut être par équipe. Souvent, c'est même des compétitions par relais en équipe de deux. On accepte naturellement les débutants. Il y en a qui ont des fois que 3-4 mois d'escrime en adulte qui viennent, jusqu'à pas de limite d'âge.
Oui, parce que je pense que c'est le côté convivial qui prédomine.
Voilà, c'est ça.
Surtout dans les catégories
journée.
Vétérans.
Voilà, quand on arrive en senior,
ouais.
Voilà, loisir, il y a des petites rencontres comme ça. On est moins esprit compétition, quoi.
Et là, c'est vrai qu'il y a des clubs qui organisent ça, mais du coup, ouais, c'est plus pour l'épée ou des choses comme ça. On n'a pas ça au sabre.
Mais il y en a beaucoup, de rencontres.
Donc, en fonction des armes, c'est vrai que les compétitions sont pas pareilles.
Camille, la prochaine question, elle est pour toi, puisque je suppose que pour être maître d'armes, on passe des niveaux normaux, des diplômes, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans le sein de l'escrime, chaque club a la possibilité de faire évoluer leurs adhérents pour, je ne sais pas, l'arbitrage, par exemple, ou éventuellement avoir la possibilité d'encadrer des entraînements? Est-ce que ça se fait côté de l'escrime?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, il faut savoir que nous, la France, on était un des seuls pays à former les maîtres d'armes.
Ah d'accord.
Voilà. Allez, moi, à l'époque où j'ai encore passé mon BE1, parce que c'était les dernières années du BE1, en fait, on avait une école des maîtres d'armes qui était placée au Crêpes de Châtenay-Malabry, en haut. Et on était vraiment le seul. On avait en fait des gens qui venaient de tout pays, parce qu'en fait, on était le seul pays à former les maîtres d'armes.
D'accord.
Après, malheureusement, je pense que pour des questions de budget, tout ça, le CNFE a été démonté, donc il n'existe plus. Et maintenant, c'est des stages. Donc, pour former ceux qui veulent devenir maître d'armes, c'est des stages. Donc, c'est un DE maintenant qui se paye très cher.
Bah, à l'époque, je me souviens, même pour un brevet d'État à premier degré, c'était pas si donné que ça quand même. À l'époque.
Hein. Alors moi, je sais que j'avais été totalement prise en charge en tant que sportive de haut niveau. Non, parce que j'étais sportive de haut niveau.
Justement, on va y venir un petit peu après.
On a un peu de chance là-dessus, donc j'avoue que je me rappelle pas trop, mais je sais que voilà, maintenant le diplôme, il est très cher. C'est des stages à Reims. Il faut faire vraiment des gros dossiers. Enfin, c'est quand même un petit peu plus contraignant, on va dire, que maintenant. Ensuite, pour les jeunes, effectivement, moi, je les forme à l'arbitrage, de toutes les façons.
C'est chouette.
Oui, mais je pense que pour comprendre notre sport,
il n'y a rien de tel.
Voilà.
Ouais,
il faut savoir
les règles. Quand même.
Exactement.
Oui, mais savoir les règles, c'est une chose, mais il faut savoir surtout
les retranscrire, les appliquer.
Voilà, ouais. Tout à fait.
Et ensuite, c'est pareil, c'est au niveau de la Gironde qui passe l'arbitrage départemental.
Uh-huh.
Donc ça se passe toujours comme ça, c'est un QCM du règlement.
Ouais.
Et ensuite la pratique.
Oui, simplement.
Voilà. Après, c'est au niveau de la ligue, donc ça veut dire que c'est la région, c'est pour être arbitre régional.
Oui.
Et ensuite, c'est au niveau national, pour être arbitre national. Mmh. Et c'est toujours pareil, QCM et pratique.
D'accord.
Non, mais ce qui est très bien en plus, comme Camille qui forme les jeunes à l'arbitrage, c'est que les tireurs se retrouvent en position d'arbitre. Donc, lorsqu'eux-mêmes sont tireurs, ils peuvent comprendre les décisions de l'arbitre ou comprendre la difficulté qu'a l'arbitre, des fois, à analyser.
C'est ça.
Donc, voilà, ça permet d'être dans les deux rôles et des fois d'être un peu plus indulgent envers l'arbitre.
Quand mais il prend une décision.
Oui, mais ça apprend énormément pour la suite. Pour
le respect de l'arbitrage, pour plein de trucs. Ouais.
Mais exactement.
Et puis, moi, je leur dis une règle, c'est que l'arbitre a toujours raison, même quand il a tort.
Ça, c'est la règle numéro 2. Même voilà. S'il a tort, il va avoir la règle numéro 1.
Je suis moyen d'accord.
À l'origine. Non, mais dans le but.
Il
dans
aura le
but,
dernier mot.
Dans le but,
ça, c'est sûr.
C'est le juge.
Il aura le dernier mot.
Il a le dernier mot.
Mais
il faut qu'il
est-ce
y ait quelqu'un
que le dernier
qui
mot
tranche.
Sera bon.
Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Donc, cette personne-là qui s'appelle arbitre, elle est là pour trancher, pour donner des décisions. Sûr. Alors, l'arbitre, c'est pas Dark Vador. Tu comprends? Il n'est pas du côté obscur avec la force.
Si un tireur.
J'ai cru.
Ouais,
il peut se tromper, on est d'accord.
Oui,
comme tous les arbitrages, on peut se tromper. Mais il faut quelqu'un qui tranche et il faut lui donner plein pouvoir.
De toute façon, un non-respect de la décision de l'arbitre, ça peut coûter cher au tireur.
Ça peut
être une élimination de suite.
Je souhaiterais que dans beaucoup de sports, on ne va pas les citer, mais bon, il y aurait. Et en pratique, je pense que ça n'arrêterait quelques-uns, je pense aussi. Donc Camille, on a parlé tout à l'heure de ton parcours. T'as commencé à évoquer, mais j'allais y venir de toute façon, parce que tu sais, j'ai préparé l'émission en amont et j'allais plus ou moins y venir. Un petit parcours malgré tout de ta part.
Moi c'est assez rigolo, c'est que j'ai commencé l'escrime plutôt tard. Alors pour tout dire, c'était mon grand frère qu'on faisait, parce que lui il voulait faire comme Zorro quand il était petit. Donc mes parents se sont dit bon.
Et à un moment donné, je crois qu'on a tous voulu faire comme lui, hein,
voilà,
en regardant la série.
Et moi au début ça me passionnait pas trop, même si j'avais essayé quand j'avais 6 ans. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai eu 12 ans, j'ai eu un déclic et j'ai eu envie de reprendre. J'ai repris et ça s'est super bien passé tout de suite. Ma première année, je gagnais donc les championnats de ligue de ma région. Donc, moi, par contre, je viens effectivement de Juif-sur-Yvette. Donc, c'était la Ligue de Versailles à l'époque.
D'accord.
Et ma deuxième année d'escrime, je faisais troisième au championnat de France. Voilà.
Bon, il y avait quand même un petit potentiel qui traînait.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Et du coup, forcément, j'ai été donc sélectionnée pour des Coupes du Monde après. En fait, entre cadette et junior, je suis restée à peu près au classement national, donc au Sabre d'âme, dans les 10 et 15 meilleures françaises. Voilà. Et en plus, quand j'étais cadette, je tirais en junior et j'étais souvent mieux classée en junior.
D'accord.
Donc voilà. Et bon, quand je me suis malheureusement pas mal blessée, mais j'ai quand même continué. Et quand j'ai eu 23 ans, même si je m'entraînais avec l'équipe de France, je partais plus sur les Coupes du Monde forcément. Mais quand j'ai eu 23 ans, ils m'ont dit « Bon, ma Camille, maintenant, il faudrait que tu ailles te faire soigner. Nous, on va laisser la chance aux jeunes. » Quand on a 23 ans, ça fait mal.
Ça bloque un peu. Hein.
Voilà, exactement. Et donc, j'ai quand même continué un petit peu la compète parce qu'en fait, ça m'amusait énormément. Donc, je crois que je suis restée jusqu'à ma dernière année, je suis restée dans les 20-25 meilleures françaises classées. Et le bureau du SPUC m'avait demandé d'aller faire le championnat du monde des maîtres d'armes, que j'ai été faire. Du coup, j'ai été double championne du monde, individuelle et équipe.
Voilà. Par équipe et individuel.
C'est tout récent, ça.
C'est ça.
4-5 ans.
Même pas, ouais. Je crois
2018
ça 4
ou
ans.
2017 ou
2018. 2018, ouais. Mm. C'est ça. Voilà.
C'est bien. Bravo.
Oui. Après, c'est vrai qu'on en est assez fiers. Après, ça reste des championnats du monde des maîtres d'armes. Donc, c'est un petit peu différent de ce tir.
Oui, mais bon, alors là...
Il y a quand même du beau monde aussi.
Ouais,
Parce que, par exemple, au sabre homme, il y avait quand même Luigi Tarantino, ancien champion olympique. Nous, pour la France, par équipe, justement, parce que c'est des équipes mixtes, du coup.
Uh-huh.
Et j'ai tiré avec Julien Pillet, qui a été champion olympique par équipe. Donc oui, il y avait quand même du bon niveau. Mais bon...
on dit tirer.
Oui,
on dit tirer comme au judo, par exemple.
Comme à la lutte aussi.
À la lutte aussi, sport de combat, on dit tirer.
Je ne savais pas.
Ouais.
Et donc ça, c'est mon parcours en escrime. Parce que quand j'ai arrêté la compète d'escrime, je me suis reconvertie. Et donc, j'ai fait du roller hockey et du hockey sur glace.
Voilà.
Et j'ai été championne de France N1 au roller hockey. Voilà.
Et donc, on aura peut-être l'occasion de retrouver Camille.
Au SPUC, au roller hockey. C'est possible à Pessac, ouais.
Il est 19h sur la pluie.
Des
20h, pardon. oui, mais bon, c'est comme ça. Toujours en direct, bien entendu. On arrive tranquillement à la fin. C'est pas encore, mais ça va venir. Camille, donc, excellent parcours. Félicitations.
Merci.
De tout ça, je suppose que être maître d'armes, on a la conviction et l'envie d'apprendre plein de choses à ceux qui sont autour de toi. C'est comme un entraîneur, de toute façon, hein, on est bien d'accord, maître d'armes est égal à entraîneur.
Tout à fait.
Voilà. Elle est bien, Camille, hein, président.
Elle est très très bien.
Il faut la garder. Hein.
Ah oui,
il ne faut pas laisser partir.
Ah non, surtout pas, non.
Jérôme, en tant que président, président depuis.
Ah, depuis peu, ça fait même pas un an.
Ça fait pas un an.
Ah. Non, c'est depuis janvier.
Et quelle est donc cette envie de devenir président ? Est-ce que c'est une opportunité qui est arrivée sur toi ou tu l'as provoquée
cette opportunité ? J'ai pas du tout provoqué. C'est simplement l'ancien président qui souhaitait
passer le
relais en restant quand même dans le bureau.
Ça faisait déjà 10 ans qu'il était là, Fred, je crois.
Fred, peut-être pas 10 ans, mais ça faisait pas mal. Bon, après, il voulait passer le flambeau. Il m'a proposé. Genre, j'avais pas pensé à être président d'un club d'escrime un jour. Hein. Moi, c'était pas ça, mais ça fait près de 35 ans, plus de 35 ans que j'en fais. Donc, ceci, j'ai accepté, mais avec une seule contrainte que je lui ai dit. Une condition, c'était qu'il reste dans le bureau et qu'il soit vice-président. Voilà.
D'accord.
Voilà,
d'accord. Ouais, c'est bien.
Voilà.
Et
ouais.
Tu avais quoi comme rôle avant d'être président, du coup ?
Dans le club, j'étais tireur. Tireur plutôt loisir, hein, vétéran, comme on dit hein, maintenant. Plutôt loisir. Et j'ai des petits diplômes, on va dire, pour enseigner. Donc ça m'arrive. Enfin, j'enseigne plus depuis très longtemps, sauf quand je dois remplacer Camille s'il n'y a pas en compétition. Amener les enfants, mais ce n'est pas mon métier. Voilà.
Mais c'est prenant, la présidence.
Je découvre que c'est prenant, ouais. Mais je suis bien entouré. Alors il y a Camille et puis on a des membres du bureau qui sont remarquables et ça va bien.
Heureusement, en fait, on a des gens du bureau qui sont là quand même depuis assez longtemps, alors qui veulent passer la main petit à petit, parce que c'est vrai que c'est très dur de trouver des bénévoles pour reprendre.
On va en parler des bénévoles, on y arrive, mais pas facile.
Et du coup, en fait, heureusement, ils passent la main en douceur. Donc du coup, c'est-à-dire que l'ancienne trésorière...
Ça se fait petit à petit et c'est ça qui est bien.
Les anciens restent dans le bureau pour faire la transition.
Ils restent quand même en contact avec nous, ils restent dans le bureau pour faire la transition. C'est pareil, mon collègue Michel, qui est maître d'armes ici depuis longtemps, je voulais absolument qu'il reste au club, parce que Michel, c'est une figure quand même du Spuk Escrime. Hein. Donc c'était important et c'est vrai que c'est chouette qu'ils soient tous là. Comme ça, ils peuvent vraiment aider pour quand il y a des trucs où on n'a pas l'habitude... Ça leur rappelle les choses.
Mais c'est vrai que c'est prenant. Spuk Escrime avec... alors là, on a parlé plutôt bureau.
Ouais.
Mais autour de cela, autour de cette association, il y a du bénévole quand même qui est là pour donner des petits coups de main pour plein de choses. Est-ce qu'il y a de la demande justement aujourd'hui ? Ou c'est plutôt difficile de...
Alors, on a là pour l'instant, on a les membres essentiellement, ce sont les membres du bureau, hein, les bénévoles.
Ouais.
On sait par expérience que quand l'année dernière, Camille allait à Décathlon faire les cours en extérieur, il y avait des mamans qui étaient là pour aider, un peu dans la logistique. Je sais que si on demande aux parents, si on a besoin d'aide, de bénévoles, comme on aura pour les prochains championnats, il y en a qui vont lever la main.
C'est ça.
J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Voilà. Ce qui est bien, c'est quand ça tourne, ça puisse tourner. Des fois, ça tourne pas assez, souvent les mêmes. Mais chacun ses contraintes et voilà. Des fois, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils peuvent pas. Mais pour l'instant, on n'a pas de difficulté à trouver les bénévoles.
Après, c'est vrai que c'est pas si facile. Alors, il y a des clubs qui s'en sortent très 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 bien. Bon, a priori, j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas énormément de compétitions organisées par les clubs. Donc, c'est ça qui demande surtout de la main d'œuvre, des bénévoles pour le montage de la salle, pour tout ça,
tenir
la buvette, etc.
Ranger.
C'est à ces moments-là qu'on a besoin des bénévoles. Mais c'est vrai que en règle générale, c'est vrai que les parents sont là pour
prétendre. Oui, et puis nous, ce qu'on a toujours voulu à Pessac, c'est avoir un club aussi très familial. Donc du coup, c'est-à-dire que moi, j'ai des compétiteurs, j'ai des loisirs, j'ai des débutants, ils sont tous ensemble. Et tout le monde s'entraide, tout le monde... en fait, et là, les uns pour les autres. Moi, les grands, par exemple, des fois, ils m'aident avec les plus jeunes. Je leur demande. Les plus jeunes sont ravis. Et du coup, je pense que c'est cette ambiance-là qui fait que quand vraiment on a besoin d'un coup de main,
bien sûr.
En général,
bien
on
sûr.
Galère pas trop.
Ouais,
à trouver,
Moi, j'ai découvert ce club il y a 6-7 ans que je suis arrivé, peut-être. Ouais, 2013, par là. J'ai fait beaucoup d'autres clubs avant d'arriver ici. Et effectivement, c'est ça que j'ai aimé. C'est que c'est un club familial, ce que je recherchais. Puis il y a une âme dans ce club. C'est ça qui est super.
C'est ce qu'il faut y amener. Et je pense que... Alors moi, je sais que c'est de l'expérience que je parle, mais c'est vrai que la personne qui dirige... Alors, j'aime pas trop ce mot-là parce que ça fait un petit peu entreprise.
Mais il faut
qu'il y ait quelqu'un à la tête, on est bien d'accord. Mais la présidence peut être très, très, très bien, être chapeautée de plein de personnes. Et c'est juste une idée, la présidence, en fait. Mais il faut quelqu'un au niveau de la loi, c'est comme ça. Mais c'est vrai que moi, je me faisais fier d'avoir un club... Parce que quand le club est convivial, on peut se permettre de beaucoup de choses. Et c'est là auquel on prend plaisir. Parce que je sais que parfois, par expérience, c'est des fois dur d'associer l'associatif, la vie familiale et plus encore. Donc, c'est vrai que si en plus, on a le club qui est convivial et on se dit, bon, ben là, c'est du plaisir, quoi. On va y aller, on va avoir la banane. Et c'est ça qui apporte beaucoup, quoi.
C'est ça. Du coup, moi, je sais qu'il y a des parents. Du coup, ils emmènent tous leurs enfants, même ceux qui ne font pas d'escrime. Et tout le monde
aide.
Et puis
bien sûr.
C'est super.
Ouais.
Petite question qui est importante parce qu'il faut en parler. Jérôme, il a vu le sujet.
Ah, j'ai vu que ça allait être un peu la trésorerie.
Mais oui, parce que tout club, évidemment, il faut vivre malgré tout. Hein.
Ouais.
C'est pas que, c'est indispensable. Et aujourd'hui, pour venir faire de l'escrime à Pessac, simple escrimeur, c'est quoi ? C'est quel tarif ? Comment c'est géré tout ceci, Jérôme ?
Alors, on a deux tarifs, enfin trois si on compte le sabre laser, mais si on reste sur l'escrime, on a un tarif qui est pour l'école d'escrime, donc pour les petits qui vont jusqu'à quel âge les petits, rappelle-moi.
5-6 ans,
là on est à 150€ de mémoire.
Ouais.
Voilà.
Avec un cours par semaine ?
On est un cours par semaine le mercredi matin. C'est que le matin l'école d'escrime, hein, c'est 11.
Oui, c'est 11h30.
11h30. Mmh. Et puis ensuite, pour les plus grands, donc, et puis même pour les adultes, on est au même tarif. On est au tarif de 310€ à l'année, comprenant la cotisation, les cours et l'assurance, et la licence naturellement de la Fédé.
Voilà. Quand on va sur le site et qu'on voit éventuellement passeport pour compétition, ça équivaut à quoi ? C'est-à-dire que c'est un passeport qui est tamponné pour toutes les compétitions faites ?
Non,
ou pas, c'est quoi ?
C'est rentré en fait sur l'ordinateur, c'est au niveau de la Fédé, si c'est on clique ou pas sur un bouton. Et en fait, ça nous rajoute 6€ sur la licence.
On a 6€ sur l'année, hein, pour le passeport compétition.
D'accord.
Mais c'est la Fédé en fait.
Non, parce que je pose cette question parce que moi, je sais que du sport où je viens, on avait en fait un site de passeport qui, à chaque fois qu'il y avait des compétitions, c'était tamponné,
c'était mentionné.
C'était juste pour
savoir.
Non,
là, c'est juste des frais qu'on prend la Fédé pour les compétitions, mais c'est pour les compétitions officielles, on va dire. Hein. Si on fait des rencontres interclubs ou comme disait tout à l'heure Camille au Krebs, ça compte pas.
Pour terminer dans cet aspect financier, est-ce que la Fédération française d'escrime prétend à aider les clubs par des subventions, c'est-à-dire que vous montez un dossier de subvention bien spécifique ou pas?
Non, ils sont venus en aide, ils ont pu intervenir sur des clubs qui étaient en difficulté suite à la crise là, qui est passée.
Oui.
Mais la Fédé, nous on leur paye, on achète les licences à la Fédération française, donc après...
c'est tout.
Voilà, non, c'est tout. Après, les aides qu'on peut avoir, c'est par la commune, par le département.
Uniquement. C'est-à-dire que lorsque vous changez de matériel au sein de la salle, vous ne pouvez pas prétendre à monter un dossier via la Fédé.
Non.
C'est uniquement
non, non,
les instances. C'est
et puis,
tout.
Déjà, la Fédération française d'escrime n'a pas une santé financière très importante de base, due notamment à des championnats du monde qu'ils ont organisés au Grand Palais à Paris en 2010.
Et ils ont fait un gros flop.
Exactement. Ouais. Et donc ça a puisé beaucoup dans les caisses. Donc il faut savoir que depuis ce temps-là, on paye beaucoup plus cher, on va dire, nos compétitions.
C'est une maladie. C'est une maladie parce que j'en reviens toujours à la lutte. Ils ont organisé, alors j'y suis plus depuis quelques années, mais il y a... Je pense qu'il y a quelques années, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, ils avaient organisé un championnat du monde qui les avait trouvés. Je crois qu'ils étaient à moins 8 millions d'euros.
Ouais, quelque chose comme ça.
Moi, je connais pas les chiffres, mais je sais que bon,
ils sont tombés. Mais alors, voilà. Ouais. C'est dommage de parce que le problème c'est que la Fédé c'est quoi, c'est juste l'image du sport représenté dans tous les clubs français et à un moment donné voilà quoi, il faut qu'ils fassent gaffe les gars parce que c'est sérieux quoi. C'est
alors après je sais plus s'ils sont remontés ou pas parce que ça date quand même de 2010 ça, mais ça, je pense que ça doit commencer à remonter
ça
mais bon
peser,
sachant
mais
qu'ils nous reprennent
ans,
encore
ouais.
6 euros pour les passeports compètes. Ouais. Bon,
mais après,
ils ont besoin encore un peu d'argent. Donc,
après, ils ont quand même aidé.
Par
exemple, quand on a lancé, ils ont lancé le sabre laser. Ils ont aidé les clubs à développer cette activité parce qu'ils ont vu qu'on pouvait avoir un nouveau public. Donc, les premiers sabres qu'on a achetés, quand même. Hein,
ah oui, c'était.
Les
oui,
sabres
c'était
ont été payés par une subvention de la fédération pour ouvrir la section, quand même. Ouais.
Oui.
Donc, ce qui n'était pas négligeable. Hein,
c'est bien.
Ouais.
Que c'est bien. Donc, bon. Une question. Jolan.
Non,
le sabre laser,
de...
non.
Merci de m'aider.
Là, sur la fin, là.
Sur la fin, c'est dur. Hein.
C'est un peu dur.
C'est
ouais.
dur. Bon, on a fait quand même pas mal le tour. Hein. Voir, oui. Est-ce que Jérôme ou Camille auraient des questions à poser justement pour par rapport à la radio, des choses qui leur auraient échappé auxquelles je pourrais répondre ou pas?
Alors, non. J'ai pas de questions, mais juste, je renouvelle l'invitation au mois d'avril, de 2 et 3 avril, si vous pouvez venir couvrir nos championnats de Ligue, championnats de Nouvelle-Aquitaine du Créna, voilà, si on veut dire comme il faut.
Et moi, je voulais dire aussi que, en tout cas, l'escrime n'est pas forcément un sport auquel on pense, et c'est que surtout, il ne faut pas hésiter à venir pousser la porte des clubs pour venir essayer. Ça ne coûte rien d'essayer, les clubs font des essais gratuits. Pour au moins vous amuser au moins une soirée, voir ce que c'est. Après, ça vous plaît pas, mais au moins vous savez ce que c'est l'escrime. Parce que c'est quand même un sport français. Et je trouve que ça fait partie de la culture sportive française de savoir ce que c'est que l'escrime. Et tant qu'on n'a pas essayé,
je suis d'accord.
C'est plus
mais
compliqué.
Et justement, à ce propos, on avait, il n'y a pas très longtemps, le Forum des Assos qui était présent et qui, c'est l'occasion parfaite pour pouvoir prétendre à montrer que le sport, il est là. Mais est-ce que le club, comme tu as dit Camille tout à l'heure, fait des petites démarches, des petites journées ou demi-journées?
Alors nous, en fait, on fait deux
de
cours d'essai. Oui, on fait deux cours d'essai. C'est-à-dire n'importe qui veut venir essayer l'escrime, il fait deux cours d'essai avant qu'on l'inscrive. C'est-à-dire tous les petits, ils sont obligés, on va dire, de faire deux cours d'essai pour être sûr que ça leur plaise, qu'ils vont venir toute l'année, et du coup, on les inscrit.
Ouais. Et on sera, on a été présent au Forum des associations, mais on sera également présent au Printemps du Sport, où là, il y aura possibilité à tout le monde de venir s'essayer à l'escrime.
Mmh. Printemps du Sport, de quel côté?
À Pessac, alors c'est vers
Cap
de Bosse par là-bas.
Stade André Guénègre, je crois.
Ouais, ça doit être
ça. C'est là souvent qu'il y a les activités.
Ça sera là-bas et bon, ça sera au printemps. J'ai plus la date en tête.
Mais
voilà, il y aura.
On fera véhiculer.
Ouais.
Il
y aura possibilité d'essayer. Ouais.
Ouais, c'est bien. Que c'est bien. En tout cas. Nous, de notre côté, Radio Génération 33, on est content d'être parmi vous. Voilà.
On était ravis de vous accueillir.
Oui.
c'est toujours bien de pouvoir mettre ce sport en lumière, en parler.
Bien sûr. En tout cas, nous, ça nous fait énormément plaisir de prétendre à donner la parole à ceux qui, malheureusement, ne l'ont pas trop souvent et qui mériteraient de l'avoir un peu plus, justement.
Surtout qu'on est quand même bien représentés au jeu.
Ouais.
Pour un sport qui cartonne au jeu.
Et oui.
Très suivi
et
au
depuis
jeu.
1896, depuis l'origine.
Oui.
Ouais.
On a quand même toujours eu des médailles aux Jeux Olympiques, peu importe les années, peu importe les armes.
C'est toujours le sport.
En plus, il faut savoir que c'est le français qui est la langue internationale à l'escrime.
Officiel,
c'est toujours arbitré en français. C'est vrai que c'est dommage, malheureusement, que ce soit un sport qui reste, on va dire, confidentiel. Parce que les gens ont souvent des a priori sur ce sport, à dire que c'est un sport cher, des choses comme ça. Ce qui est dommage.
Non.
Mais ouais.
dernière petite question, est-ce que la Fédé, justement, joue le rôle de communication comme il faut?
Alors, ils nous donnent des...
C'est important, ça aussi.
On a des packs de communication qu'on a reçus à la rentrée.
C'est des petits posters ou des petites choses à mettre qu'ils font chaque année.
On a des packs de com, mais après, ils font beaucoup de communication maintenant sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de publicité qui est faite.
Aujourd'hui, c'est ça qui prédomine. Hein.
largement. La communication par les réseaux sociaux.
Ouais. C'est quasiment plus que ça maintenant.
C'est très important. Oui, non, mais bon, ça c'est mauvais côté, mais ça c'est très bon côté. Hein. Ouais. On peut faire véhiculer
avec
l'information. Tout le moyen,
on peut faire véhiculer.
Hein.
Ouais.
C'est ça surtout. C'est ça. Donc bon, voilà. Allez, 20h15. On va remercier Camille de nous avoir accueillis. Camille est maître d'armes. Et puis Jérôme qui, lui, tient bien la présidence depuis quelques temps.
Il fait de son mieux.
Mais si, il n'y a pas de raison. Et puis tu es bien entouré, hein, parce que bon, voilà, il y a du monde qui est derrière toi.
Ah oui, oui. J'ai aucun souci là-dessus, je dors tranquille. Bon, ça va.
C'est une bonne chose. Voilà, et bien grand merci de nous avoir accueillis, dans
merci
votre
à vous.
Centre.
Merci à vous.
Et puis, on se retrouve très prochainement, quand vous voulez, si vous voulez, justement, si vous êtes en compétition où il y a des résultats à donner, où nous, on se déplace, ou bien tout simplement par téléphone lors des émissions, justement, comme ce soir.
Bah, quand je fais des flashs ou autre.
Où il y a des flashs
résultats. Oui, bah, voilà. On communiquera les informations des résultats de compétition importants pour les passer au flash. Ouais.
Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas partie intégrante de communication des sports. Et notamment de l'escrime pessacaise aujourd'hui. Voilà. Merci à vous.
Super.
Merci.
Vous écoutez Radio Génération 33. On va tout simplement passer la parole au reste de la musique sur la plus gironde. On vous retrouve pour un nouveau Génération Sport. La semaine prochaine, ça sera en studio. Normalement, s'il y a du changement, on vous en informe. Il n'y a pas de souci. Et d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous, les amis. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.